Le magazine Femina de VOA Afrique.
Et d'adolescents communiquent sur les réseaux sociaux dans le monde. Quel est le rôle des parents et des éducateurs en matière de prévention et de surveillance sur Internet? Êtes-vous de ces parents avouant leur impuissance face à un ado qui ne se sépare jamais de son smartphone? Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nathalie Barge pour vous accompagner dans ce débat sur la jeunesse face au monde numérique, un monde extrêmement complexe qui dépasse plus d'un parent, parfois complètement désespéré à force de n'y rien comprendre et de se voir même donner des leçons par son enfant de 13 ans, lui expliquant patiemment comment créer un bon mot de passe ou poster une photo sur Instagram. Et oui, bienvenue dans le monde de la génération numérique. Alors, nous avons justement un spécialiste en la matière, Thomas Romer, expert en protection de l'enfance sur les questions du numérique depuis 12 ans, administrateur de la Voix de l'Enfant. Il est en ligne à Paris. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous.
Merci à vous de m'avoir invité.
Alors, dites-moi si je me trompe, hein, vous êtes en quelque sorte un précurseur en la matière. Vous êtes l'ancien directeur de l'association Callisto, qui était spécialisée dans les problèmes et enjeux liés aux usages d'Internet. Elle avait été créée en 2004 et à l'origine du programme de sensibilisation Génération Numérique, hein, qui est la première opération d'information et de sensibilisation sur les enjeux et risques liés à l'utilisation des outils du numérique sur le public des 8-10 ans donc en France. Alors c'est tout de même impressionnant ça finalement, en 2004, est-ce que vous êtes vraiment le précurseur de ce type d'initiative et est-ce que depuis il y en a plus ou vous êtes toujours les seuls à vous inquiéter de ce genre de problème?
Bah écoutez, en effet, on a été un petit peu à l'époque en avance sur en tout cas les problématiques que bon nombre de vos auditeurs rencontrent à l'heure d'aujourd'hui. À l'époque, on parlait encore d'outils qui ont maintenant disparu de la chambre des adolescents ou de leur smartphone, comme MSN, etc. Mais force est de constater que les ados et les enfants regorgent de créativité pour pouvoir s'emparer de ces outils. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problématiques qui ont un petit peu évolué avec les outils, mais qui restent entières, comme vous le précisiez dans votre introduction, vis-à-vis des parents, puisqu'en fait, on est face à un enjeu d'éducation, tout simplement.
Alors, est-ce qu'un parent doit se mettre à jour hein, sur toutes ces nouvelles technologies du numérique, sachant que son enfant, son adolescent est déjà dedans, notamment avec un smartphone, il a accès à Internet, etc. Est-ce que c'est le devoir du parent de se mettre à jour justement pour le protéger ?
Un devoir, tout dépend comment on considère les choses. En tout cas, il est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, cet enjeu d'éducation que j'évoquais à l'instant concerne tous les enfants de la planète, quels qu'ils soient ou qu'ils soient, puisque la plupart des enfants trouvent toujours le moyen d'avoir un accès à Internet et le plus souvent maintenant via un smartphone. Et par conséquent, c'est souvent très important dans son rôle de parent qui n'est ni plus ni moins que de vouloir accompagner son enfant au cours de son évolution, que de s'intéresser à ses outils et en tout cas à ce qu'il peut y faire, parce que il peut y faire tout un tas de choses formidables et souvent exprimer sa créativité comme on peut le voir sur beaucoup d'outils comme Instagram et YouTube par exemple, mais aussi il peut aussi parfois franchir la ligne jaune, et c'est tout le problème quand on est un enfant, c'est qu'on ne sait pas forcément ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on peut faire, quand on fait éventuellement du tort à quelqu'un d'autre. Et par conséquent, évidemment, c'est à ce moment précis que les parents entrent en jeu et ont un vrai rôle à jouer, en effet, d'accompagnateur, même si, comme vous le précisiez dans votre introduction à juste titre, les parents semblent souvent désarmés, abusés et complètement perdus face à la multitude d'outils qu'utilisent leurs enfants, qui se positionnent, comme vous le disiez, encore à juste titre, souvent en donneurs de leçons et en maître de cérémonie, si
oui,
je puis dire.
Et il faut le dire que même un parent qui est plus ou moins à la page, il est toujours dépassé à un moment donné par son adolescent qui, de toute façon, est né dedans, comme on dit, et va toujours plus vite. Donc forcément, comprend plus rapidement les choses, évolue plus rapidement que le parent lui-même, qui d'ailleurs n'y passe pas la journée en général. Nous avons un auditeur en ligne, Abdoulaye Adamou Idrissa Maïga, qui nous appelle du Niger.
Allô?
Oui.
Et comment vous allez?
Ça va très bien, et vous-même, comment allez-vous?
Oui, ça va très bien.
On vous écoute.
Ah, ok. Vous savez, la question sur les réseaux sociaux, moi, je crois que vraiment, les parents doivent tout faire dès que l'enfant est tout petit, c'est-à-dire dès le bas âge, quoi. Voilà, ils doivent tout faire pour que l'enfant puisse faire la différence entre le bien et le mal. Mm-hmm. Parce que moi, je crois que c'est même pas les réseaux sociaux le problème, mais le fait qu'un enfant a un portable, il peut aller dans des sites vraiment que moi, je crois, qui ne sont pas...
Mais dites-le, hein, des sites qui sont pas bons pour lui, des sites pornographiques, etc., des sites de violence.
C'est ce que je veux dire, des sites vraiment qui lui conviennent pas. Et même les sites, et même les réseaux sociaux. Un enfant qui chatte ou bien, comment on dit même, avec d'autres personnes, vous voyez, non? Il n'a pas le temps pour ses études.
Ouais, ça lui prend du temps.
C'est vraiment un très grand problème. Un enfant qui navigue trop sur les réseaux sociaux, il n'a pas le temps pour ses études. Et c'est là, ici au Niger, ça explique même beaucoup la raison pour laquelle le niveau des élèves ne fait que baisser.
Oui, parce qu'en fait, on remarque quand même que la navigation sur les réseaux sociaux, surtout si on a un enfant ou un adolescent à la maison, on remarque que c'est effectivement beaucoup pour communiquer avec les copains et les copines, mais on remarque aussi qu'on utilise de plus en plus ce genre d'outils pour faire les devoirs scolaires. Alors, Monsieur Romer, vous avez entendu au niveau de la protection des enfants ce que vient de dire notre auditeur. Qu'en est-il des lois, justement, à commencer par les lois, quel est l'âge minimum acceptable pour naviguer sur tel ou tel réseau social, notamment, et vous allez dire après que effectivement comment les détourner, car effectivement il y a des enfants, des jeunes qui les détournent, ces règles de minimum d'âge.
En fonction des pays où on se trouve, les règles proposées, puisque ce sont les règles, on les trouve dans les conditions générales d'utilisation des plateformes comme Facebook, YouTube, etc. Vous savez, toutes ces nombreuses pages écrites en tout petit que jamais personne ne lit et clique tout de suite sur accepter. Du coup, on trouve en fonction des pays les différents âges qui sont autorisés pour pouvoir venir et s'ouvrir un compte sur ces plateformes. Alors, je les connais pas toutes par cœur. Si je prends l'exemple d'un pays que je connais bien, la France, c'est l'âge de 13 ans. Mais en France, il est vrai qu'on voit... on voit énormément d'enfants dès l'âge de 8-9 ans qui ont un compte sur Facebook et qui tout simplement ont truqué leur date de naissance pour pouvoir s'inscrire.
Bon, ça se fait forcément avec la complicité des parents, j'imagine. Non ? Pas forcément.
Non, pas du tout.
Ah, ouais.
Pas du tout. Ils le font souvent par eux-mêmes. Parfois même, dans la plupart des cas, les parents ne sont même pas au courant que les enfants ont un compte Facebook. Je dirais même que parfois, les parents ont même interdit qu'ils aient un compte Facebook. Mais les enfants s'en sont créés un par eux-mêmes en changeant leur date de naissance, mais aussi en changeant leur nom de famille et en prenant un pseudonyme. Donc, je rejoins un petit peu ce que disait votre auditeur tout à l'heure, à savoir, il est important que, il faut que vraiment n'importe quel parent qui nous écoute se rende compte que de mettre un téléphone, un smartphone entre les mains d'un enfant à l'heure d'aujourd'hui de moins de 10 ans, c'est pas un acte anodin, ouais. Et ça nécessite un petit peu un accompagnement. Même s'ils ont l'impression d'être dépassés, les conseils que peuvent donner les parents, c'est avant tout des conseils de bon sens. Et par exemple, comme le rappelait votre auditeur, en effet, c'est que Internet, c'est bien, mais il n'y a pas que cela. Et en effet, à partir du moment où on commence à voir les résultats scolaires chuter, etc., il est fortement temps d'agir pour les parents et de se préoccuper un petit peu et de mettre en place des règles fondée sur du bon sens, tout simplement.
Alors, vous donnez du conseil, évidemment, hein, dans les écoles, hein, par rapport à ce danger d'Internet. Est-ce que vous conseillez les professeurs, les enseignants, les éducateurs, ou en tout cas, est-ce qu'il y a des conseils spéciaux, finalement, pour instaurer une espèce de notion de confiance entre le parent et l'enfant, ou l'éducateur et l'enfant ? Parce que, finalement, tout est question de confiance. Si l'enfant est vraiment impliqué le plus rapidement possible dans la confiance du parent, peut-être que ça marche mieux. Enfin, je ne sais pas, mais moi j'ai expérimenté un petit peu ça et apparemment ça marche.
Oui, vous avez raison, mais de toute façon, la confiance entre les parents et les enfants, je dirais, c'est le béaba, et c'est le maître mot dans l'éducation avec un grand E. S'il n'y a pas de confiance, il ne peut pas y avoir d'éducation. Et à partir du moment où il n'y a plus de confiance, il y a malheureusement souvent plus de lien entre les parents et les enfants. Donc il faut absolument maintenir ce lien de confiance. Les outils numériques peuvent être un moyen d'ailleurs de le faire. Hein. Moi, j'invite certains de vos auditeurs, pourquoi pas, puisque les enfants sont demandeurs, à inverser les rôles et à dire « écoute, voilà, montre-moi ce que tu fais sur les réseaux sociaux, pourquoi pas créer une page Facebook pour la famille où on va uniquement la réserver qu'à la famille et où on pourra échanger tous ensemble ». Donc un petit peu inverser les rôles, vous voyez, faire passer les enfants d'enfants à entre guillemets professeurs vis-à-vis de leurs parents, mais au-delà de ça, en effet, il y a tout un tas de messages à faire passer. Maintenant, c'est vrai que le rôle des enseignants est souvent compliqué parce que pour les enfants, quand un enseignant se met à aborder la page Facebook d'un élève ou quoi au caisse, souvent les enfants vivent ça comme une volonté de la part de l'enseignant de s'immiscer dans leur vie privée. Et donc l'enseignant n'est malheureusement pas toujours le mieux placé pour pouvoir donner ce type de conseil parce que les enfants le vivent très mal. Donc c'est vrai que après ça, tout ça est un juste équilibre à trouver et beaucoup de dialogue au sein de la cellule familiale pour mettre en place un certain nombre de règles, mais qui peuvent en effet s'appliquer très simplement. Moi aussi, j'ai une enfant, une adolescente à la maison, et tous les soirs à 20h, elle se fait qu'à partir de 20h, le téléphone doit être coupé, parce que j'estime qu'après 20h, elle a pu recevoir de messages ou d'appels. C'est les derniers moments en famille avant d'aller se coucher. Et donc, il faut fixer des règles qui soient pas flexibles. Et si jamais on voit que l'enfant transgresse, et ben à ce moment-là, il y a une sanction. Par exemple, supprimer le téléphone pendant 3 jours.
C'est la pire des sanctions qui puissent exister.
Exactement. Je peux vous assurer qu'en général, ça revient vite.
Mais rapidement. Mais vous êtes parvenu à le faire, ça. Parce que...
Il faut tenir bon. Il faut tenir bon parce que en effet, comme disait votre auditeur une fois encore, il n'y a pas que ça. Internet, même si c'est un univers merveilleux et qui peut leur permettre d'apprendre plein de choses et de découvrir plein de choses, à partir du moment où on se coupe des autres, où on se met plus qu'à avoir des amis entre guillemets virtuels uniquement sur Facebook, qu'on ne sort plus de chez soi, qu'on va plus jouer au foot, qu'on va plus faire du vélo, qu'on va plus s'amuser et rencontrer les gens, la vie n'a plus d'intérêt. Il faut privilégier les relations réelles. Maintenant, ce sont des outils avec lesquels les enfants sont nés, et on ne peut pas non plus le nier en tant qu'adulte, mais notre rôle est de les accompagner et de leur montrer, comme tout bon éducateur qu'on essaye d'être en tant que parent, ce qu'il faut faire et pas faire pour éviter qu'il y ait des choses regrettables qui se passent.
Alors, nous avons un autre auditeur en ligne, Ouedraogo Youssouf, de la Côte d'Ivoire. On vous écoute, Youssouf. Comment allez-vous ?
La rédaction.
Est-ce que j'ai bien Ouedraogo Youssouf en ligne ?
Oui,
on vous écoute. Allez-y.
Écoutez, Nathalie, moi je pense que la liberté est telle qu'il serait presque un possible dans l'avenir de voir, d'avoir un regard protectionniste sur les enfants de façon générale. On peut contrôler l'épanouissement de l'enfant vis-à-vis de la société à partir de la maison familiale, mais que dire alors du degré de se laisser aller de ces mêmes enfants dans les cybercafés, etc. Alors, le destin de notre société ne doit pas être à la merci du bon vouloir des règles de l'extrémité de la liberté imposée, ne reflétant pas forcément les réalités communautaires de notre monde. Il faut déjà que les autorités non seulement compétentes arrivent à contrôler l'environnement de l'Internet sans enfreindre aux droits fondamentaux conformément au principe des libertés citoyennes ou constitutionnelles de chaque citoyen, mais il faudra aussi que chaque parent, quel que soit son niveau social ou intellectuel, soit obligé de se dire qu'il est interpellé face à ce phénomène, parce qu'il ne suffit pas d'avoir la même mise sur ses propres enfants ou son environnement, parce que c'est une question de fréquentation. C'est une question environnementale. Mais quand vous donnez de bons conseils à vos enfants, il faut s'assurer aussi que le voisin le fait pareil, que le quartier d'à côté le fait pareil. Ouais. C'est un travail d'ensemble. Mm-hmm. Et voilà là où je suis d'accord avec votre invité qui parle des règles strictes à partir de la maison. Je pense que c'est efficace. Mais quand on lit un peu les droits de la société tels qu'imposent la liberté d'expression, la liberté de façon générale, ça induit un peu les parents à laisser les enfants à trop se mm-hmm. laisser aller dans ce phénomène. Mm-hmm. C'est vraiment déplorable pour la société qui se veut vraiment moderne, être un exemple pour les générations futures.
Mm-hmm. Oui, en effet, les règles sont forcément toujours plus efficaces quand elles sont appliquées par tous. Monsieur Romer, j'ai une question un peu technique à vous poser. Doit-on connaître les mots de passe de son enfant? Et si oui, à partir de quel âge, etc. Parce que bon, on a toujours le sentiment à partir d'un certain moment, on est toujours un petit peu gêné, on se dit, on va s'introduire dans sa vie privée, etc. Donc, quel conseil vous donnez là-dessus?
Écoutez, les mots de passe, c'est compliqué, parce que de toute façon, il aura beau vous le donner le lundi, il peut très bien en changer le mardi. En revanche, puisque vous voulez parler de sécurité, j'invite tous les ouais. auditeurs qui nous écoutent, parce qu'on entend de plus en plus de problèmes de piratage, de comptes, etc. Mm-hmm. J'invite vraiment tous les auditeurs qui nous écoutent à faire attention, à en tout cas donner des conseils à leurs enfants, à créer ce qu'on appelle des mots de passe alphanumériques, c'est-à-dire des mots de passe qui sont beaucoup plus difficiles à pirater que les autres. Et notamment, pour ce faire, c'est très simple, un mot de passe alphanumérique, c'est un mot de passe qui contient à la fois des lettres en majuscules et en minuscules, des chiffres, mais aussi des caractères spéciaux. Mm-hmm. Si je prends un exemple, vous pouvez prendre l'exemple de Mamadou, vous allez écrire en mm-hmm. En M majuscule, avec plein de minuscules derrière, et puis vous allez taper la date de naissance, et puis après vous allez rajouter un point d'exclamation, ou une mm-hmm. virgule, etc. Et là, au moins déjà, vous aurez un compte qui sera bien protégé, et ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas souvent, mais qui occasionne... Mm-hmm. qui occasionne souvent beaucoup de problèmes chez les enfants en termes de sécurité.
Ouais.
Par ailleurs, pour revenir à votre question initiale, sur les mots de passe, c'est, si vous voulez, en effet, c'est assez difficile de connaître. Je pense que c'est pas...
est-ce qu'on doit attendre... Apprenez... Enfin, est-ce qu'on a le droit, d'une certaine manière, de le faire jusqu'à la majorité de l'enfant? Enfin, je ne sais pas si on peut dire droit, mais voyez ce que je veux dire. Est-ce que vraiment c'est conseillé au niveau du développement de l'adolescent? Est-ce que c'est pas trop...
Je pense que, de toute façon, en dessous de l'âge de 10 ans, un enfant
évidemment, oui.
n'a pas conscience des risques qu'il prend. Donc, ouais. en effet, il y a une vraie nécessité. Et justement, peut-être qu'en utilisant cette astuce que je viens de donner autour des mots de passe alphanumériques, ça permettra à vos auditeurs de se mettre un peu en avant vis-à-vis de leurs enfants et de leur dire, tu vois, moi aussi je maîtrise. Et de suivre ce conseil. C'est vrai qu'à partir de l'adolescence, c'est un peu plus compliqué. C'est souvent la période où les enfants, justement, cherchent un peu à s'éloigner de leurs parents et à prendre leur envol du nid familial. Et donc, c'est clair que ce ne sera pas bien vécu du tout. Néanmoins, pouvoir avoir un regard dessus et maintenir du dialogue, ça semble très important. Mmh. Et une fois encore, remettre les choses en perspective en disant qu'il n'y a pas qu'Internet. Il n'y a pas que ça dans la vie, mais voilà, le risque zéro n'existe pas. Quand vous montez sur une moto, on vous dit de mettre un casque, mais c'est pas pour autant que vous n'aurez pas d'accident. Bah, sur Internet, c'est un peu la même chose.
Ouais. Mais en ce qui concerne, on va parler quand même de ce problème assez sérieux de la violence sur Internet. Hein. Forcément, les réseaux sociaux s'étendent, la toile s'étend, donc il y a de plus en plus de vidéos de violence, de pornographie, etc. Et qui n'a pas trouvé, hein, dans l'historique de son adolescent, eh bien, là, au milieu des vidéos de jeux, etc., une vidéo, malheureusement, prise sur YouTube, je ne sais où, de pornographie. Et voilà, une fois que le mal est fait, il est là. Et bon, après, comment récupérer cette chose? Eh bien, évidemment, il faut parler avec l'enfant. Mais comment éviter ce type de problème? Parce que le parent est souvent confronté à cette impossibilité, même au sein. Il y a des mécanismes, effectivement, pour bloquer ce type d'intrusion. Mais on a l'impression que cet outil est plus puissant que nous. Que même si on adopte certains mécanismes, il y a toujours quelque chose qui va arriver par là, qui sera absolument inattendu.
Oui, c'est assez compliqué. Alors certaines plateformes proposent des systèmes de filtres. Vous avez par exemple Google qui propose un petit outil dans les paramètres qui s'appelle Safe Search et qui vous permet de paramétrer une espèce de filtre en 3 ou 4 catégories en fonction de ce que vous voulez que votre enfant trouve ou pas. Il y a des outils gratuits comme ça. Après ça, il en existe tout un tas d'autres à l'échelle internationale qui sont souvent malheureusement payantes. Et du coup, tout le monde ne va pas forcément vers ce genre de solution. Maintenant, vous avez raison. Oui. Internet, un peu comme un petit peu malheureusement notre société à l'échelle planétaire, et reflète un peu ce qui se passe dans le monde avec tout ce qu'il y a de joli, mais aussi tout ce qu'il y a de moins joli. Et en effet, de nombreux enfants tombent de plus en plus tôt et de plus en plus jeunes sur des contenus choquants et préjudiciables. Et dans ce cas-là, en amont, pour prévenir ça, une fois encore, le dialogue est une clé importante, c'est-à-dire le risque zéro n'existe pas. Et de toute façon, il est fort probable que même en cherchant à les protéger, ils tombent, même sans le vouloir, sur ce type de contenu. Donc il faut tout simplement peut-être en parler en amont et les préparer, parce que souvent le réflexe des enfants quand ils tombent sur ce genre de contenu, c'est d'avoir l'impression d'avoir fait une bêtise, ouais, et de ne surtout pas en parler. Mmh. Et vous avez des enfants qui sont extrêmement choqués et qui restent prostrés pendant plusieurs jours sans en parler. Mmh. Et justement,
il faut absolument leur dire que ce n'est surtout pas de leur faute en réalité. C'est ça la clé.
Il faut préparer le terrain.
Excusez-moi, monsieur Romer, nous avons justement un auditeur en ligne qui va être très intéressant. Ce n'est pas un parent, ni un éducateur, mais c'est un adolescent qui est toujours sur son portable téléphonique la plupart du temps. On le trouve en train de naviguer sur les réseaux sociaux. Nous l'avons, c'est Dany Promesse qui nous appelle de Bujumbura, au Burundi. On vous écoute. Comment allez-vous?
Oui, je vais très bien. Merci, salut à tous.
Alors, on vous écoute justement. On aimerait bien connaître un petit peu votre témoignage.
C'est ça, donc, et la petite fois, des fois, là. Et mes parents me trouvent en train de tripoter, c'est de naviguer, c'est WhatsApp, c'est Facebook. Donc aussi j'ai des amis donc, qui la plupart des fois tripotent aussi pour regarder des films pornographiques. Ils aiment plutôt télécharger chaque film pornographique qui tombe, donc ils téléchargent pour bien voir quelques images, aussi de faire masturbation par après. Là, ce sont des amis à moi. À ce qui me concerne, moi, après avoir quitté l'école, donc, je me mets dans une chambre quelconque. Aussi, je regarde quelques news, quelques nouvelles. Et aussi, ça me pratique beaucoup beaucoup d'air. Je peux aussi quelques. Je perds les heures de réviser mes notes et les heures de suivre ce que j'ai appris dans l'école. Mais à cause de l'appareil téléphonique là, je tripote, je navigue toujours, je dors vraiment très tard dans.
Merci beaucoup pour le témoignage de Dany Promesse. Hein. Merci beaucoup à tous nos auditeurs, à tous nos Facebookers, et surtout merci beaucoup effectivement à Thomas Romer, hein, qui est un expert en protection de l'enfance sur les questions du numérique. Un grand merci à toute l'équipe et à Georges Léonard Sagnot à la production. À très bientôt. Au revoir.